prendre avec moi la parole du Seigneur. Vous avez les salutations de mon épouse. Plusieurs m'ont demandé des nouvelles. Et donc, nous avons nos enfants à la maison ce week-end. C'est ce qui a justifié son absence. Mais Dieu voulant, le week-end prochain, je ne serai pas seul. Hein, voilà. Là, vous voyez que 50% en fait. Hein. Vous ne voyez que la moitié. Donc l'autre moitié sera là aussi. Hein. Voilà. Alors, je vous propose de lire avec moi dans le livre de la Genèse, au chapitre 12. Et nous lirons à partir du verset 5. La lecture est un peu longue, mais c'est nécessaire. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Moré. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donnerai ce pays à ta postérité ». Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarai, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit « C'est ma sœur » Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Amen. J'aimerais, à travers cet épisode, quand même, qui aurait pu être fatal dans la vie d'Abraham, aborder un sujet particulier, je crois qu'il correspond à des situations ce matin parmi nous, c'est la volonté de Dieu de nous relever de nos chutes. Parce que ce que nous venons de lire, au fond, aussi étonnant que ça puisse paraître, c'est le récit, dans le parcours d'Abraham, d'une chute, qui peut surprendre quand on sait de quelle manière ce païen de Mésopotamie a eu la révélation du Dieu vivant et vrai. Il était parmi ces Chaldéens plongés dans le paganisme, et quand plus tard Étienne reprend l'histoire d'Abraham, il dit « Dieu parut à Abraham en Mésopotamie ». Une expérience forte, brusquement, dans les ténèbres et l'obscurantisme qui étaient son lot, une lumière brille, Dieu se révèle, et clairement, Abraham comprend que tout le reste, c'est de la mythologie mensongère et vaine, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le Créateur, le Dieu Sauveur. Il découvre brusquement, sa vie change. Parce que, en lui apparaissant, Dieu lui adresse en même temps un appel, un ordre. Va-t'en de ce contexte, va-t'en de ton pays, dans le pays que je te montrerai. Ceci, si nous voulions transposer à notre propre existence, pourrait nous parler de quelle merveilleuse manière Jésus s'est révélé à notre cœur. Est-ce que tu te souviens de ce jour ou de ces jours, de ces réunions où au commencement le Seigneur s'est révélé à ton cœur? Alors peut-être pas par une apparition mystique, mais d'une manière forte, claire, où en entendant l'Évangile, ou en lisant les Saintes Écritures, ou bien en écoutant un cantique lors d'un culte, clairement, Dieu a touché ton cœur, a suscité la foi, a éclairé ton intelligence, et t'a conduit à lui donner ta vie et ton cœur. Moi, je ne veux pas oublier le jour de ma conversion. Comment je me suis converti? L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens et il le leur rappelle. Comment vous vous êtes convertis? Et Paul leur dit que la conversion des Thessaloniciens a été tellement spectaculaire que sa réputation a parcouru tous les pays voisins. On racontait les uns aux autres ce que les Thessaloniciens avaient expérimenté, eux-mêmes plongés dans le paganisme, découvrent l'Évangile et le Dieu de l'Évangile. Ils abandonnent leurs idoles, ils se tournent vers le Seigneur Jésus, le seul nom qui a été donné par lequel nous devions être sauvés. Ils changent de vie, ils servent Christ et ils attendent son retour. Quel changement! Eh bien, Abraham a connu ce changement, frères et sœurs. Sa vie a été bouleversée. Dieu s'était révélé à son cœur. Et le résultat, pour ne pas être trop long dans mon introduction, c'est que effectivement Abraham va se retrouver en Canaan. Après tout un périple à Charan, etc., il se trouve en Canaan. Et ma Bible me dit que Abraham, arrivé au pays de Canaan, a voulu parcourir le pays. C'était son héritage, comme l'Éternel le lui avait promis. Il parcourt le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Il veut découvrir son héritage. Au plan spirituel, je peux dire que j'en suis qu'au commencement de la découverte de mon héritage. Et toi, Dieu nous invite à découvrir notre héritage. La Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu. Ça en réjouit quelques-uns? Nous sommes co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que nous sommes co-héritiers, c'est-à-dire nous sommes héritiers autant que Christ. Nous avons cette grâce immense de jouir de cet héritage inflétrissable qui nous est échu en réponse à notre foi, autant que Christ. Nous sommes co-héritiers de Christ. Quelle bénédiction! Gloire à Dieu. Mais le dimanche matin, vous devriez tous chanter des cantiques et louer et célébrer le Seigneur, oui ou non? Il y en a au moins un. Mais toute l'Église devrait s'émerveiller, se bouleverser, au lieu d'être là, n'est-ce pas, figé dans un esprit un peu éparse. Mais nous sommes appelés à être des adorateurs, Seigneur. Qu'est-ce que tu as fait en te révélant à nos cœurs? Nous sommes passés de la mort à la vie, des ténèbres à ta lumière. Nous sommes sauvés, alléluia. On l'a chanté, hein? Je suis sauvé, alléluia. Gloire à Dieu. Quel changement. Et il parcourt le pays. Mes frères et mes sœurs, nous avons un héritage. Ne restons pas cantonnés dans une parcelle étriquée de notre héritage, mais allons plus loin. Allons dans les dons spirituels. Allons dans un service fructueux. Allons de victoire en victoire. Gloire à Dieu. Qui a besoin de victoire ce matin? Eh bien, c'est ton héritage. Va dans ton héritage. Alléluia. Y a-t-il des malades parmi nous ce matin? La guérison fait partie de ton héritage. Eh bien, prends ton héritage. Empare-toi de ce que le Seigneur t'offre dans sa grâce et parce qu'il t'a appelé. Alléluia. Il fait, ça commence bien. Moi, je dis que l'histoire d'Abraham commence très bien. Jusqu'au moment où intervient le verset 10. Il y eut une famine dans le pays. Et là, je suis étonné. Et là, ça m'interpelle moi-même. Parce que si une telle défaillance a pu si rapidement intervenir pour le père des croyants, je suis plus encore que lui exposé à de semblables défaillances. Une famine, et la Bible nous dit, la famine était grande dans le pays. Et là, brusquement, la suite du récit me fait découvrir un autre Abraham. Un autre. On a connu celui qui bâtit un autel à l'Éternel. Celui qui invoque l'Éternel, celui qui est porté par la foi, et là, la famine intervient et je découvre un autre Abraham. Un Abraham qui craint, qui redoute. Un Abraham qui est impressionné par la sévérité de la famine et qui calcule. Un Abraham qui cherche la solution dans son potentiel intellectuel. Il n'y a plus d'autel. Il n'y a plus d'invocation de l'Éternel. Et ça entraîne dans sa marche une chute. Une chute. Frères et sœurs, il y a eu le temps où Dieu a suscité la foi en Abraham en se révélant à lui. Et arrive au verset 10, maintenant, l'épreuve de la foi. Parce que cette famine, elle n'est pas fortuite. Cette famine qui brusquement intervient, c'est l'épreuve de la foi. Et mon frère, ma sœur, ne sois jamais étonné de ce que ta foi connaisse l'épreuve de la foi. Il y a un texte fondateur dans ce domaine où l'apôtre Pierre écrit ceci. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, c'est nécessaire, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus Christ apparaîtra. Amen. Ta foi qui te sauve, ta foi qui a fait de toi un authentique enfant de Dieu, rencontrera l'épreuve de la foi. Lorsque Abraham a été confronté à sa première épreuve de foi, il y en a eu d'autres. Et heureusement, il a pu, après avoir grandi spirituellement, les traverser, pour certaines, d'une façon admirable. Lorsqu'il va être appelé à offrir Isaac sur le Morija, wow, quelle épreuve de foi! Mais là, c'est un Abraham qui a grandi, hein. Il a évolué. Et là, il va jusqu'au bout et il offre là sur l'autel Isaac. Il est dans sa gestuelle à un doigt d'exécuter, n'est-ce pas? Mais la Bible nous éclaire sur l'intérieur de cet homme qui se disait, il est impossible que le fils que l'Éternel m'a promis périsse. Et c'est comme par une sorte de résurrection qu'Abraham va retrouver son fils. Il a fait des pas de géant, mais ici, il tombe facilement. Et la Bible dit, ça c'est des verbes qu'il faut retenir parce qu'ils sont très parlants, il descendit en Égypte. Il descendit. On a fait pendant les 4 jours de jeûne et prière, vous savez, on a regardé les transformations topographiques que Dieu veut faire en nous. Et je disais que quelquefois on est trop bas, alors Dieu veut nous rehausser. Et bien là il descend. Il descend en Égypte. Et en Égypte, eh bien, il va d'erreur en erreur. Il dit à sa femme, tu vas dire que tu es ma sœur. En fait, c'était sa demi-sœur. Donc, c'était un demi-mensonge qui équivaut à un plein mensonge. Parce que il n'y a pas de demi-mensonge. Hein. Voilà, il va recourir à du mensonge, à de la dissimulation. Il va être dans un premier temps vraiment récompensé, gratifié par le pharaon. Il va recevoir des troupeaux, des richesses, des serviteurs, des servantes. Parmi ces servantes, une qui s'appelait Agar, et qui va plus tard devenir quand même une occasion de chute, une nouvelle fois. À un moment donné, il a fallu que le Seigneur intervienne rudement pour que Pharaon prenne conscience qu'il y a un gros problème. Il renvoie Abraham, sa femme et toutes ses possessions, et le chapitre 13, alors... Chapitre 13 nous enseigne sur le relèvement de la chute. Chapitre 12, ce que nous avons lu, c'est le processus de la chute. Et chapitre 13 nous parle du relèvement de la chute parce que je parlais de verbes significatifs ici, il est dit... Chapitre 13, verset 1, Abraham remonta d'Égypte. Je crois que le Seigneur veut que tu remontes ce matin. Que quelqu'un remonte. Parce que tu es descendu trop bas par rapport au niveau que Dieu t'octroie. Et avec patience, avec sa grâce infaillible, Dieu veut t'encourager à remonter. Amen. Oui, parce que quand on est tombé, on ne reste pas à terre. Oui ou non? Qui parmi nous n'est jamais tombé, physiquement, je veux dire, physiquement, vous voyez? Moi, j'avais, quand j'étais gosse, j'avais mes genoux en sang, souvent. Ouais. Qui n'est jamais tombé? Qui est déjà tombé au moins une fois? Qu'une, deux, allez, reconnaissez, on est tous tombés, oui ou non? Et qui est resté par terre? Personne, puisque vous êtes là ce matin. Quand on tombe, on ne reste pas par terre. Amen. Quand on tombe, on ne reste pas par terre. Le prophète Michée dit ceci, chapitre 7, verset 8, « Ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi, car si je suis tombé, je me relèverai. » Que quelqu'un dise « Amen » ce matin. Si je suis tombée, je me relèverai. Si je suis assise dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. » Gloire à Dieu. Quand on tombe, la volonté de Dieu, c'est qu'on reste le moins longtemps possible à terre. Un autre merveilleux passage dit ceci. « L'Éternel affermit les pas de l'homme. » Psaume 37, verset 23. « Et il prend plaisir à sa voix. » Et le verset 24 dit « S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. » Amen. Et le Seigneur voudrait te prendre par la main ce matin. Parce que si tu es tombé dans un découragement, dans un burn-out, dans de l'amertume, dans du défaitisme, dans des pensées qui ne sont pas celles du Seigneur, si tu es tombé et si ta chute t'accable de honte et de faible estime de toi-même, eh bien, la volonté de Dieu, c'est que tu ne restes pas terrassé, mais son intention est de te prendre par la main et de te relever. C'est le Dieu du relèvement. Laisse-toi relever ce matin par le Seigneur, mais relève-toi toi-même par ta foi restaurée et reprends ta marche, que le Seigneur soit béni. Il y a cet autre texte qui dit ceci, Jérémie 8, 4. Dis-leur, alors je vous le dis ce matin, hein, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Ça doit t'interpeller ce matin. Le problème, je m'entends, n'est pas tellement que tu sois tombé. Il vaut mieux ne pas tomber. Mais un problème plus grave serait qu'après ta chute, tu ne parviennes pas à te relever. Or, Dieu, ce matin, veut te visiter. Il veut fortifier ta foi et il veut t'aider à te relever, alléluia, et à redevenir le chrétien bouillant que tu as été, la chrétienne zélée que tu as été. Je me souviens de ces soirées tardives où, avec des jeunes de mon église, on distribuait des prospectus dans les immeubles de ma ZUP à Rieux-la-Pape, au nord-est de Lyon, mais jusqu'à 21h30, 22h, on y allait, on distribuait les prospectus. Mais personne ne nous forçait à cela, mais c'était une joie, une joie. Et là, l'anecdote entre vous et moi, ne le mettez pas sur Facebook ça. Hein. À chaque boîte aux lettres, quand je voyais un nom, le Seigneur bénit la famille, un tel. Hein, là, et je priais pour ces gens. Quelqu'un dira, ça c'est vraiment de l'enfantillage ça. C'est tellement puéril, mais c'est pas puéril du tout. C'est tout simplement un cœur qui brûle de la flamme du Seigneur. Gloire à Dieu. Et moi, j'aimerais redevenir ce chrétien-là. Est-ce que quelqu'un se dit dans son fort intérieur, j'aimerais redevenir ce que j'ai été pour le Seigneur. J'aimerais retrouver mon innocence, ma spontanéité, ma fraîcheur, mon authenticité dans mes relations fraternelles, dans mes prières, dans mes témoignages, j'aimerais redevenir. Eh bien, mon frère, ma sœur, nourris-toi de l'idée du relèvement. Parce que tu peux redevenir. Et tu peux redevenir en mieux ce que tu as été jadis. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que quelqu'un pourra dire amen? Il y en a trois, c'est bien. Alors, maintenant, je vais prêcher pour tous les autres. Se nourrir de ces paroles, Michée, Jérémie 8, Psaume 37, que je viens de vous lire, nourris ta foi de ces paroles qui encouragent la certitude que le relèvement est possible. Gloire à Dieu. Alors, je ne veux pas faire comme au Canada où on dit « dis à ton voisin, le relèvement est possible ». Bon, enfin, faites-le quand même si vous voulez. Hein. Encourageons-nous les uns les autres. Le relèvement est possible. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. J'aimerais que nous puissions considérer ici, un peu plus en détail, les quatre premiers versets de Genèse 13, le processus du relèvement. Il remonte d'Égypte vers le midi. Et ce que je vais noter, premièrement, c'est que quand Abraham remonte, il fait remonter avec lui toute sa famille. Amen. Il ne remonte pas seul. Quand il a chuté, il a entraîné toute sa famille vers le bas. Mais quand il remonte, il fait remonter toute sa famille. Ceci me fait réfléchir, moi, en tant qu'époux, papa, papy, ben, sur la portée de mon témoignage. Je peux faire sombrer tous les miens dans le déclin, ou bien je peux faire remonter tous les miens vers les sommets spirituels. Amen. Moi, je préfère le deuxième scénario. Pas vous? Et pourquoi tu ne deviendrais pas un instrument pour entraîner dans ta remontée tous les tiens? Moi et ma famille. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il remonte d'Égypte avec sa femme, tout ce qui lui appartient, et Lot avec lui. Nous avons une dimension à notre témoignage que nous n'évaluons pas toujours. Nous avons un pouvoir d'exemplarité. C'est comme ça. C'est comme ça. Toi et moi, nous pouvons être des références, des exemples, des modèles. Soyons des exemples de foi conquérante, persévérante. Soyons des exemples motivants pour entraîner tous les nôtres. Alléluia. Je n'ai pas souvenir d'avoir dit une seule fois à nos trois enfants lorsqu'elles étaient toutes petites, on va à la réunion. Le mot réunion, ma femme et moi, nous l'avons très vite éliminé de notre dictionnaire. Et donc nos filles ne sont jamais allées à des réunions d'église. Mais elles sont toujours venues avec beaucoup de bonheur chanter Jésus. Ça change, hein? Amen. Elles sont venues à des rassemblements de famille, à se réjouir dans la maison du Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Combien de parents ont éprouvé des difficultés avec certains de leurs enfants à l'âge de l'adolescence? Pourquoi? Parce que à table, alors que les petits n'avaient que 7-8 ans, ils se permettaient des commentaires négatifs sur le frère un tel, la sœur une telle, le pasteur, l'église, nanana. Et quand même, et les petites oreilles de 7 ans, 8 ans, enregistraient ces choses. Eh bien ça, c'est tiré vers le bas. Que le Seigneur fasse de nous tous, des hommes, des femmes, qui vont eux-mêmes remonter, être restaurés, se relever, et dans ce relèvement, entraîner tous les nôtres. Alléluia, commence à envisager, mon frère, ma sœur, que dans quelques temps, tous tes enfants seront là. Oh, quand même, c'est possible. Que ton mari sera là, tes beaux-parents seront là, que les tiens seront là. Envisage ces choses et nourris cette attente de la foi. Le Seigneur l'honorera, que son nom soit béni. Amen. Il remonte avec tous les siens. Deuxièmement, il remonte aussi avec toutes ses richesses qu'il consacre. Il remonte avec toutes ses richesses. Je crois, frères et sœurs, moi je vous le dis en toute simplicité, hein, c'est entre vous et moi, toutes les bénédictions que Dieu décide de nous octroyer, nous ne voulons pas en faire une jouissance égocentrique, mais nous voulons que ça soit participatif de l'œuvre de Dieu. Amen. Dieu me donne la santé. C'est un trésor, hein? Non? C'est une richesse. Ben moi, je prie pour que ma santé lui serve. Gloire à Dieu. Dieu me donne quelque... N'importe quoi, voyez, vous faites... c'est la période de l'inventaire, hein, l'inventaire annuel. Ben, au niveau spirituel, moi, je veux faire quelquefois mon inventaire. Et Seigneur, mais... Oh là là, j'ai été pauvre, mais tu m'as enrichi. Quel amour, quelle grâce. Mais cet enrichissement, je veux l'entraîner dans mon relèvement, dans les choses spirituelles. Gloire à Dieu. Ces choses-là ne doivent pas me porter à m'assoupir spirituellement, mais au contraire, je veux les consacrer. Et si ta voiture devenait un transport en commun pour aller chercher, faire du covoiturage, amener une voisine inconvertie, des voisins qui sont là au bord d'un divorce. Et si ce que Dieu t'octroie pour le temps terrestre, eh bien, tu le mettais au service du Seigneur, eh bien, je crois que ça correspondrait à la volonté de Dieu pour ta vie et pour la vie de chacun de ses enfants. Il remonte, et puis, il y a ce merveilleux verset 3, je vous le relis. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Dans sa remontée, je constate une chose, c'est que Abraham ne cherche pas à explorer des horizons nouveaux. Parce qu'il y a aujourd'hui un phénomène qu'on appelle la séduction, et où même dans le domaine de la foi, on va vous proposer des perspectives nouvelles, des horizons nouveaux. L'évangile n'est ni nouveau ni ancien, il est éternel. Gloire à Dieu, hein ? Et Abraham a compris que s'il voulait vivre un réel relèvement, il fallait qu'il dirige sa vie vers les points de référence du commencement. Il revient. Il revient à Bethel. Bethel, maison de Dieu. Oui, parce qu'il faut revenir. Mais le Seigneur précise ceci. Écoutez, Jérémie, chapitre 4, verset 1. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel. Et puis il y a une succession de bénédictions. Revenir, oui, mais revenir à Dieu. Amen. Revenir à Christ. Revenir à un rétablissement merveilleux de ma communion personnelle avec Dieu. Revenir à l'Église, c'est bien, mais revenir à Dieu en revenant à l'Église, c'est mieux. Amen. Vous comprenez, hein ? Lire sa Bible, c'est bien, mais lire sa Bible en vivant un temps de communion avec Dieu, c'est mieux. Prier, c'est bien. Moi, j'ai entendu, vous savez, en presque un demi-siècle, on en entend des choses, on voit, on assiste, on observe. On a entendu des prières, sauf que ceux qui les tenaient ne faisaient pas un millimètre de progrès. À quoi ça sert de prier si ma vie de prière n'engendre pas en moi une victoire, une avancée, un progrès, un développement spirituel? Non, tous les éléments de piété, lire sa Bible, prier, louer, avoir une vie d'église, témoigner, tout ça n'a qu'un seul but, hein, c'est de nourrir ta communion personnelle avec ton Dieu sauveur. Israël, si tu reviens à moi, dit l'Éternel, est-ce que quelqu'un dans son cœur, silencieusement bien sûr, dans son cœur, va répondre à cette parole ce matin ? Dire, mon Dieu, tu es en train de mettre vraiment le doigt sur le point crucial de mon état de déclin. Eh bien, je veux répondre à cette parole, mon Dieu. Oui, je veux revenir. Je veux revenir. Et je veux revenir à toi, Jésus. Je veux revenir à toi. Écoutez ce que se dit le fils prodigue, parce qu'il avait fait une chute, lui aussi. Hein. C'était pas trois étages, lui. C'était carrément un building de Manhattan. Il est tombé du plus haut. Quoi. Quelle chute! Alors que lui aussi, au départ, c'était un anti de la grâce du Père. Quelle chute! Et au fond de la chute, la Bible nous dit ceci. Étant rentré en lui-même, rien que dans ces mots, il y a toute la psychologie moderne. Vous voyez. Les psychiatres, les psychanalystes, ils n'ont rien inventé. Hein. Le jeune homme rentre en lui-même. Vous voyez, les psychologues, l'enfance, les traumatismes, les complexes d'Œdipe, vous voyez, mais ce n'est pas nouveau. Hein. C'est pas nouveau. C'est Dieu qui nous a créés. Il connaît notre psychologie parfaitement. Il rentre en lui-même, ce jeune homme. Il analyse honnêtement. Il fait le bilan de sa folie, des conséquences douloureuses, sa chute vertigineuse. Et il se dit en lui-même, mais combien de serviteurs ont des biens et de la nourriture en abondance chez mon père. Alors, au plus profond de lui, il prend une décision d'une sincérité, d'une force formidable. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Moi, jusque-là, je dis amen. Vous aussi ? Jusque-là, moi, je dis amen. Pour la suite, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Et là, moi, j'ai du mal à dire amen. La preuve, c'est que quand il exécute sa décision, son père le voit de loin. Et il court vers son fils. En Orient, ça ne se fait pas, ça. Ce n'est pas les anciens qui courent. Un ancien, un vieillard, un patriarche ne court jamais en Orient. Mais il court. Et il prend son fils dans ses bras. Et le fils commence. Mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi. Et là, la Bible nous dit que le Père ne lui laisse pas le temps de finir sa phrase. Vous remarquerez dans Luc 15, le Fils n'a pas le temps de dire « je ne suis pas digne ». Au contraire, le Père le court-circuite et il dit « mon Fils, il était mort et il est revenu à la vie, alléluia, mon Fils ». C'est avec ces mots que le Père accueille son fils. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on souhaite se relever de notre chute, il y a ce phénomène qui parfois nous interdit de croire que notre chute n'empêchera pas que Dieu maintiennent notre rang, notre dignité. C'était pas bien inspiré ce mot « je ne suis pas digne d'être appelé ton fils ». Et vite le Père va le lui montrer en disant « mon fils, tu es mon fils, tu as dilapidé mes biens, déshonoré ma réputation, tu as brisé mon cœur, oui, mais tu es mon fils ». Mon frère, ma sœur, ce n'est pas un relèvement fragile que Dieu veut faire chez toi. Ce n'est pas un relèvement fragile. Dieu ne veut pas que tu sois un chrétien relevé, mais fragile. Dieu veut que tu sois relevé dans la pleine dimension de récupérer ta dignité et de retrouver ta position de fille, de fils, d'enfant de Dieu à part entière. Amen. Dans l'Église, il n'y a pas des chrétiens et des demi-chrétiens. Il n'y a pas des fils et des filles et des gens dont l'identité est douteuse. Nous sommes enfants de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a aimés pour que nous soyons enfants de Dieu. Et en vous prêchant ça, je m'applique ces paroles du Seigneur. Mais quel amour indescriptible, inestimable, quel amour tu as déployé à mon égard pour que ce dimanche 29 septembre 2024, je puisse me réjouir d'être ton fils, mon Dieu. Quelle grâce insondable. Mon frère, ma sœur, plonge tes racines ce matin dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Est-ce fortuitement que Paul va encourager Timothée en lui disant « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Bien sûr que je ne vais pas légèrement faire de la grâce un prétexte pour une vie ambiguë, douteuse. Non, 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 mais dans le processus de mon relèvement, je vais plonger mes racines dans la grâce précieuse qui est en Jésus-Christ. Que sa grâce te relève ce matin. Et que tout ce qui resterait en toi, dans tes pensées vacillants, titubants, mal affermis, soit conforté. Plonge tes racines dans la grâce du Seigneur Jésus. Et je terminerai mon propos. D'ailleurs, j'avais sélectionné les paroles d'un cantique là que Jean-Phi nous a fait chanter tout à l'heure. Parce que quand j'ai lu ces paroles d'un cantique que je connaissais pas, ben je me suis dit, c'est pas possible. Ça, c'est exactement ce que le fils prodigue aurait pu chanter. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Je ne suis pas digne de ton amour. Pourtant, tu m'as aimé et dans tes bras, je reçois ton pardon, ta dignité. Par ta grâce, par ta grâce. Alors, voilà, ça a préparé la prédication, tu vois, hein, que le Seigneur vienne nous secourir les uns les autres dans nos besoins. Je terminerai avec un dernier exemple de restauration. C'est celui, le fameux exemple de la restauration de Simon-Pierre, lorsque, à trois reprises, Jésus va lui demander, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? M'aimes-tu ? » Alors, m'aimes-tu de l'amour de Dieu ? Et Simon va répondre, tu sais Seigneur, je t'affectionne, c'est de l'amour amitié. Donc évidemment, l'attente du Seigneur Jésus n'est pas satisfaite puisqu'il repose la question, m'aimes-tu de l'amour de Dieu ? Tu sais, oui Seigneur, je t'affectionne. Comme un ami. Et la troisième fois, Jésus va reprendre le verbe de Simon-Pierre en disant « Mais tu m'affectionnes ?» La troisième fois. « Simon, fils de Jonas, tu m'affectionnes ?» Et moi, je sens la tristesse du Seigneur, quoi. Il a donné sa vie. Et en retour, simplement, c'est une affection, je dirais, horizontale, quoi, humaine, naturelle, comme un ami. Et là, c'est là que la restauration se fait. Hein. Et Simon rend les armes et il dit, tu sais toutes choses. Tu sais toutes choses. Il y en avait dans ce toutes choses. Hein. Son triple reniement, par exemple, hein, avec imprécation. Mais tu sais que je t'aime. Que c'est glorieux. L'élément que je vais relever dans cet exemple de restauration, de relèvement, c'est qu'à chaque fois, Jésus répond, paie mes agneaux, paie mes brebis, paie mes agneaux. Et il parle et il rappelle la notion du service, du service, du service. Parce que voyez-vous, quand on est tombé, on peut douter du fait de la possibilité de retrouver notre dignité de fils ou de fille. C'est le fils prodigue, ça. Mais on peut douter de la possibilité d'être réhabilité dans notre service. Et l'ombre de la disqualification plane dans le cœur de celui qui est tombé. Est-ce que je peux encore, est-ce que ma vie peut encore être utile au Seigneur ? Est-ce qu'il va encore accepter de m'utiliser ? Est-ce que je peux encore remplir un service ? J'y aspire de tout mon cœur, parce qu'il m'a fait du bien. J'aimerais le servir. Mais est-ce que c'est possible ? Eh bien, Jésus dit oui, c'est possible. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Et le Seigneur va opérer une restauration merveilleuse et complète dans le cœur de Simon-Pierre. La preuve, c'est que, vous savez, après la Pentecôte, la première prédication de l'apôtre Pierre, elle peut surprendre. Il dit avec autorité à toute la foule, « Vous avez renié !» On a envie de lui dire, « Tu peux parler de reniement, toi. Hein? Est-ce que toi, tu ne l'as pas renié trois fois ?» Mais ce message qu'il apporte, voyez-vous, ce n'est pas un message de supériorité qui écrase l'auditoire. C'est un témoignage d'encouragement. Vous avez renié comme ça m'est arrivé moi aussi, mais il m'a tellement restauré que je vous annonce ce message d'espérance. Gloire à Dieu. C'est la preuve que la restauration chez Pierre a été totale. Gloire à Dieu. Et jusqu'au bout de sa vie, il va servir son maître et son Seigneur avec une fidélité. Gloire à Dieu, que le Seigneur nous visite ce matin. Oh, je prie pour que ça ne soit pas simplement une prédication dominicale. Je prie pour que ce que tes oreilles viennent d'entendre soit parole de Dieu. Pour toi personnellement. Est-ce que tu ne serais pas au fond d'une chute douloureuse ? Est-ce que tu ne serais pas assise, comme on l'a lu, dans les ténèbres ? Est-ce que tu ne serais pas dans une situation qui urgemment nécessite un relèvement ? Ne reste pas par terre. Relève-toi. Et Dieu est pour toi le Dieu du relèvement. Relève-toi. Relève ton espérance. Relève. Et fais le chemin inverse de ta chute. Retrouve au commencement les valeurs éternelles d'une vie chrétienne entière, zélée d'un amour pour Jésus, bouillant, alléluia, d'une consécration généreuse, joyeuse, inconditionnelle. Que le Seigneur soit béni. Alors, je termine avec Abraham au verset 4. Et là, une fois qu'il est venu au commencement, là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Ça y est. La communion est rétablie. Et dans ce verbe invoquer, mais il y a une richesse spirituelle. C'est prier, c'est adorer, c'est consacrer sa vie, c'est exprimer son amour pour l'Éternel. Alléluia, c'est une richesse extraordinaire. Il invoqua l'Éternel, ça y est, la reconnexion est établie, est rétablie maintenant. Et qu'il en soit ce matin pour quelqu'un de la même manière. Amen. Gloire à Dieu. Ça vous est arrivé de voir sur votre écran d'ordinateur, votre connexion a été interrompue. Ça ne vous arrive pas ? Si, hein ? Eh bien, si sur l'écran radar de ton âme, il y a ce message, « Oh, ta connexion a été interrompue. » Fais tout pour te reconnecter et pour rétablir ta communion avec ton Seigneur. Comme ce bon père de la parabole, il va te prendre dans ses bras et il va immédiatement te rappeler que tu n'as rien perdu de ta dignité d'enfant de Dieu, de ta position privilégiée de racheté de la grâce. Amen. Est-ce qu'on peut se recueillir un instant, s'il vous plaît ?